18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radio U au 101.1 pour la quotidienne et ce soir on est aux Enracinés. On y fête les 2 ans du bar et puis aussi la fin de la saison 2022-2023 pour l'équipe Radio U. Au programme de cette quotidienne, une interview du rappeur brestois DK en deuxième partie. Mais avant, on commence avec Greg des Enracinés et c'est Jade qui va s'occuper de cette interview. Salut Jade.
Salut Lou, salut Greg. Alors avant de revenir sur vos 2 ans que nous fêtons ensemble, on tenait à vous remercier de nous accueillir au sein d'Enracinés pour notre quotidienne et nous vous souhaitons bien évidemment un joyeux anniversaire.
Merci.
Pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, les Enracinés, c'est parti de 3 meilleurs amis qui ont décidé de se lancer dans un grand projet. Maintenant que vous êtes bien installés, est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances ?
Oui, largement. À la hauteur de nos espérances, c'est sûr. Est-ce qu'on aurait pensé que ça allait devenir ça quand on a ouvert le premier jour ? On en est quand même un petit peu loin. On a une base du coup assez solide qu'on avait envisagée. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont développées qu'on n'avait pas du tout prévues. Faites d'opportunités, bah notamment avec Radio U. Clairement, on vous avait pas vu sur les radars, pensez du coup collaborer avec vous. On a fait quand même pas mal de trucs déjà avec vous depuis les 2 ans. Et pas mal d'acteurs brestois ou autour de Brest qui sont venus aussi à notre rencontre ou que nous, on allait rencontrer. Donc super chouette, trop content.
Comment justement a mûri cette idée de venir s'installer Place Wilson pour monter un lieu comme celui-ci ?
Oula, des méandres et des méandres et des méandres. sans faire peur à personne, toutes les personnes qui voudraient monter un bar ou monter une entreprise. Quand on voulait monter du coup une boîte, on vous dit que c'est plein de galères, etc. Nous, on en a connu, il faut savoir faire bloc, savoir faire un petit peu face à tout. Et on a eu notamment une problématique de trouver un local qui nous correspondait. On pense qu'il y a pas mal de locaux du coup disponibles sur Brest, mais c'est quand même pas mal d'embûches du coup avant de pouvoir s'installer, etc. Et on a visité, pour l'anecdote, ici le local, donc on est Place Wilson en face du Télégramme, le jour où le président de la République a annoncé le premier confinement. Donc à milieu d'après-midi, 2-3 heures avant de se faire confiner, on est rentré dans l'ancienne boulangerie, parce que c'était une ancienne boulangerie, avec tout le matos du coup à l'intérieur, du pain dans le four, enfin en gros vraiment comme si la boulangerie s'était arrêtée la veille, avec une nécessité de se projeter du coup sur comment est-ce qu'on allait faire quelque chose du coup avec ce lieu. Et j'ai la chance d'avoir un de mes associés, Clément, qui est architecte du coup de formation, donc lui qui s'est projeté tout de suite dans le lieu. Et 3 heures après l'annonce du confinement du coup à la télé, il n'y avait plus que ça à faire, donc il était en train de dessiner des plans du coup en 3D, et puis on avait les premières planches de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et là, on s'est dit, banco, si ça marche, on y va.
Les Enracinés, c'est plus qu'un café, c'est aussi une cantine, un marché, je dirais même un lieu de rencontre. Pourquoi avoir choisi de proposer autant de choses ? Est-ce que c'est une volonté de redynamiser le quartier ?
Ouais, il y avait ça, clairement. C'est aussi pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à trouver du coup, le lieu, parce qu'on ne voulait pas s'implanter dans n'importe quel quartier du coup, de Brest. Il y avait différents spots qu'on aurait pu éventuellement investir. Mais ça me tenait à cœur vraiment d'avoir un magasin qui était ouvert, une boutique qui était ouverte du coup tout au long de la journée. Et l'idée qu'on avait en tête, c'était de pouvoir accueillir un maximum de monde en termes de génération, de profil, etc. Sans avoir la garantie que c'est ça qui allait se passer. Donc les premiers jours quand on a ouvert, clairement, t'attends toujours de voir quel type de client, quel âge, est-ce que c'est des gens du quartier, est-ce que c'est des gens qui t'ont suivi un peu sur les réseaux sociaux ou qui passent là par hasard. Et globalement, du coup, ça a pris du coup assez vite. On a différents types de clientèle en fonction des heures de la journée, des jours de la semaine, des saisons du coup aussi. Donc ça, on est plutôt content. On est à la fois un commerce de quartier, un commerce d'habitué. Du coup, il y a des gens qui viennent boire des coups, manger régulièrement du coup chez nous et qui habitent pas ou qui travaillent pas dans le quartier, qui viennent vraiment spécialement pour nous. Donc ça, on est carrément content. On a aussi un peu de clientèle touristique. Du coup, on a un petit peu de com du coup avec l'office de tourisme dont on est adhérent. Et voilà. Donc on a un melting pot du coup souvent, notamment sur le service du midi, qui fait que d'une table à l'autre, les gens ne se ressemblent pas du tout. Je pense que c'est pas des gens qui se rencontrent du coup au quotidien. Donc ça, on est plutôt fiers de ça. C'est plutôt chouette.
Comme tu l'as dit avant, ici, c'était une boulangerie qui a un grand historique, on va dire. C'était quand même une boulangerie mythique. Est-ce que vous n'aviez pas peur justement de vous installer ici ?
Alors nous, on n'avait pas peur. Par contre, on nous a mis en garde tout de suite quand on a commencé les travaux. On avait des gens qui passaient tous les jours. On a investi le lieu juste avant Noël du coup 2020. Et on a fait 5 mois de travaux du coup à peu près. Donc forcément, la porte ouverte, évacuer des gravats, sortir les machines du coup de boulangerie. Donc ben, un peu d'émulation dans le quartier, tout le monde qui se pose la question. Volontairement, on avait décidé de pas annoncer ce qu'on allait faire, parce que le concept était encore aussi en construction. On avait peur d'avoir de mauvaises surprises pendant les travaux, donc on pouvait pas annoncer de date d'ouverture, etc. Donc il y a plein de gens qui faisaient part de leur engouement en disant « c'est cool, il y a un nouveau commerce qui ouvre du coup Place Wilson ». Et on a aussi plein de gens qui nous ont dit « mais vous allez ouvrir une boulangerie ». Donc c'est la seule info qu'on a donnée, c'est que c'était pas une boulangerie qu'on ouvrait. Et là, on a eu des mises en garde en disant « Attention, c'était une institution ici, c'était déjà une boulangerie avant-guerre. Les anciens propriétaires, du coup, ils avaient une clientèle fidèle. Avant eux, c'était encore une génération de boulangers qui a très bien, du coup, fonctionné. Les gens venaient de Lambézélec pour acheter leur pain. Du coup, on était là « Ok, bon, bah, on va essayer d'être à la hauteur. » Et dans un sens, heureusement qu'on n'a pas ouvert une boulangerie parce que, du coup, il n'y avait pas de comparaison possible, en fait, du coup, avec ce qu'on allait faire.
Alors là, je vais te demander de te prêter un exercice un peu difficile en radio. Est-ce que tu serais capable de décrire le lieu où nous trouvons et son ambiance ?
Alors oui, complètement. Alors déjà, la première chose, c'est que le lieu vu de l'extérieur n'a rien à voir avec la vue à l'intérieur. Ça, c'est le premier truc sur lequel on insiste beaucoup. On a à peu près 5 à 6 mètres de devanture, donc c'est pas une devanture énorme pour un magasin du coup sur Brest. Par contre, entre la porte d'entrée et le mur du fond, vous avez 28 mètres. Donc on est vraiment du coup sur un local tout en profondeur. Je rassure du coup les gens qui sont jamais venus chez nous, on n'est pas du coup complètement à huis clos. On a une super belle verrière qui est clairement du coup l'argument numéro 1 quand les gens viennent chez nous, et c'est pour ça qu'on s'est installé ici notamment. On a une verrière en toiture qui date des années 50, c'est un super bel ouvrage qui fait 12 mètres de long sur 4 mètres de large, donc on a un gros puits de lumière. Il fait chaud pendant l'été, il fait pas très froid pendant l'hiver, on a toujours du soleil qui rentre, de la lumière, donc ça c'est plutôt chouette. Et après, en termes de déco, quand vous rentrez d'abord dans un magasin de producteurs, ça fait à peu près 60-70 mètres carrés. Pour les gens qui sont déjà venus dans l'ancienne boulangerie, c'est l'emprise que les gens voyaient en fait du magasin de la boulangerie. Et nous, on a transformé tout le fournil à l'arrière pour la salle de restauration et la salle de bar. Et on a essayé de garder au maximum le local dans son jus. On n'a pas changé les sols, donc on a du parquet, on a du carrelage à la brestoise, des petites mosaïques de un par un. On a supprimé du coup des cloisons, etc. Donc on a juste comblé au béton pour qu'on garde un peu l'empreinte du coup historique du bâtiment. Ça nous tenait un petit peu à cœur. Et puis après, on a refait un petit peu les espaces techniques, notre cuisine, les toilettes. Donc là, il y a voilà, des cloisons en placo qui ont été montées. Et puis après, c'est principalement du matériau de réemploi ou du coup des matériaux détournés. On utilise beaucoup le formica pour les tables et pour les chaises. C'est ultra facile à nettoyer, ça donne une touche de couleur dans la salle. Donc on voulait pas non plus surcharger en déco. Le comptoir est en tôle ondulée, donc là c'est vraiment du coup des matériaux détournés. Et on a essayé vraiment de quasiment rien acheter de neuf du coup chez nous, et que les gens s'y sentent quand même un peu comme à la maison. Et ça marche plutôt bien avec toutes les générations. Que ce soit les gamins qui disent « Ah, il y avait la même table chez mes grands-parents », ou les grands-parents qui disaient « Bah, mes parents, ils ont acheté ça du coup quand on a viré du coup tous les meubles en bois bretons ». Donc ça parle du coup un petit peu à tout le monde.
Alors on peut venir ici pour manger et boire, mais pas que. Chaque mois, vous organisez un événement qui peut être soit un concert, une expo, des vide-greniers. Comment est-ce que vous faites pour organiser ces événements ? Est-ce que les artistes viennent à vous ou c'est à vous d'aller les démarcher ?
Alors ça s'est passé en deux temps. On va dire les 6-10 premiers mois à peu près, on a dû cravacher du coup un petit peu. On s'est rendu compte, on n'avait pas forcément identifié ça comme étant un aspect de l'activité du coup vraiment prégnant, et clairement du coup notre activité tourne notamment beaucoup par rapport à ça. On a une clientèle fidèle, on a aussi des gens qui viennent parce que du coup on organise tel ou tel événement qui sortent un peu du cadre. Je dis souvent que voilà, on n'a pas réinventé du coup l'événementiel dans les bars, dans les restos, c'est pas ça, mais on essaie toujours de trouver un petit truc qui fait que ça a soit pas été encore organisé du coup sur Brest, soit on l'organise de manière un peu différente, soit on fait venir des gens qui clairement sont aussi identifiés déjà sur Brest, type Radio U, une communauté qui rencontre la communauté des enracinés, et du coup bah forcément ça draine du monde. Donc au début on a dû cravacher pour essayer d'identifier voilà, ce qu'on allait faire. Ça pour le coup dans notre business plan c'était quand même un petit peu identifié d'organiser une foire à la bière, d'organiser du coup un vide-dressing, foire au vinyle, etc. Et puis après bah, les premiers événements ont bien tourné et on a commencé à être démarché du coup de plus en plus. Pareil pour les artistes du coup qu'on fait passer du coup pour les concerts. On a commencé du coup à démarcher quelques artistes avec qui on voulait bosser, qui ont trouvé voilà, on trouvait que ça collait du coup avec le lieu. Et puis bah, maintenant on est démarché du coup assez régulièrement. Et donc j'incite du coup les auditeurs là du coup à venir nous voir. Le créneau chez nous c'est que on dit pas oui à tout mais on dit non à rien. Donc en fait faut pas hésiter à venir avec une idée. Nous on a plein de bonnes idées, mais on n'a pas les meilleures idées du monde. Donc que les gens n'hésitent pas du coup à venir nous voir s'ils ont une idée qui pourrait caler avec le lieu. Ce ne sera pas forcément à 100% du coup une réponse positive, mais par contre à chaque fois qu'on nous fait une proposition, on regarde comment est-ce qu'on peut la faire rentrer dans notre grille de programmation et comment ça peut caler avec notre clientèle et puis aussi si c'est adaptable au lieu.
Alors, en parlant de ces événements justement, est-ce que tu pourrais nous citer ceux que tu as préférés pendant ces deux années ? Il y a dû en avoir pas mal.
Ouais, il y en a eu beaucoup. J'en ai un en tête parce que c'est la première fois où on s'est fait vraiment déboîter derrière le comptoir du bar, et c'était au bout de quelques mois. C'était fin octobre du coup 2021. On a organisé une première foire à la bière avec 11 brasseurs pendant toute la journée. Donc un monde qu'on connaissait un petit peu du fait que certains étaient déjà nos fournisseurs, mais pas forcément à connaître du coup vraiment le monde des brasseurs. Est-ce que tout le monde s'entendait du coup entre eux? On voit qu'il y a pas mal de brasseries du coup dans le coin, l'échelle du Finistère, etc. Donc il y avait un engouement assez intéressant. Et concert DJ set d'Elmaout, du coup artiste d'Edouard Denet, qui arrive du coup à embarquer à chaque fois du coup les foules avec lui. Donc on a fait une très très grosse journée, on a super bien tourné, il y a eu plein de gens du coup à passer du coup dans la journée. Donc on était carrément contents, et puis concert du coup le soir, et là du coup on change de dimension, et en fait là le bar était vraiment archi full, je pense qu'on n'a jamais re-rempli du coup autant que ça, et fini 3h ou 4h du matin, parce que vous imaginez bien qu'au moins 11 tireuses dans la salle à servir des coups toute la journée, une fois que tous les clients sont partis, ça colle un petit peu au niveau des semelles, donc on a dû faire 3 ou 4 coups de serpillière sur 200 mètres carrés à peu près, donc on est sorti un peu tard, mais carrément content, c'était une super expérience, donc ça c'était vraiment chouette. Et après sinon c'est plutôt une aventure un peu au long cours, on travaille beaucoup maintenant avec la Libido du coup, la compagnie d'impro, ils sont venus nous démarcher, ils sont venus boire un coup ou deux du coup avec leur compagnie, et puis on a fait un premier spectacle, puis un deuxième, puis un troisième, et en gros là depuis l'ouverture, depuis 2021, on est à peu près à un cabaret d'impro tous les deux mois, tous les trois mois, et à partir de la rentrée prochaine on va les avoir du coup tous les mois, donc on va fixer du coup une date, ce sera probablement du coup un jeudi soir comme c'est le cas, et on va essayer du coup d'avoir une fréquence, parce que ça draine beaucoup de monde, donc ça c'est vraiment le deuxième truc sur des gens avec qui on bosse depuis un petit moment, et on a les petits nouveaux entre guillemets, même s'ils sont plus tout nouveaux, on bosse beaucoup avec le collectif Gloriole depuis quelques mois, le collectif Drag Queen et Drag Queer, et ça se passe carrément bien, on est ultra content, ils cherchaient un spot du coup depuis longtemps sur lequel ils pouvaient venir assez régulièrement, donc nous on leur a pas demandé d'exclusivité de venir que chez nous, donc ils organisent d'autres choses dans d'autres bars ou restos brestois. Mais ils savent que dès qu'ils ont une idée, chez nous ça peut coller. Et pareil, c'est une ambiance de dingue pour ceux qui n'ont jamais vu de spectacle ou de show drag. Je les incite vraiment du coup à venir. Moi j'ai halluciné la première fois que j'étais derrière le comptoir à servir les clients, de voir l'engouement des clients et puis aussi la qualité du coup des performances. C'est une asso, donc ils sont en mode amateur, ils ont tous un boulot du coup à côté. Par contre, ils sont ultra investis. Ne serait-ce que visuellement, la manière dont les arrivent à se transformer, c'est juste bluffant. Il y a un des gars, pour l'anecdote, avec qui on a échangé sur la première organisation. Quentin, si tu nous écoutes, c'est une petite dédicace. Quand il est arrivé du coup le jour du premier show, il est arrivé habillé en drague, et en fait j'ai mis un quart d'heure à le reconnaître. Donc j'étais en train de discuter avec quelqu'un que je n'avais jamais vu, alors qu'en fait j'avais passé déjà au moins une bonne heure et demie sur l'organisation de la soirée. Il était complètement transformé, donc ça m'a vraiment bluffé. Lui, ça l'a bien fait marrer, je pense. Mais donc j'incite les gens du coup à venir nous voir. On va sûrement réorganiser des choses. Il n'y a rien de prévu là dans l'immédiat absolu, mais à la rentrée, on va continuer à travailler avec les gens avec qui on bosse bien, et puis essayer de continuer à développer de nouveaux événements.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Greg, d'être venu répondre à notre micro. Et avant de recevoir Dike qui sera interviewé par Lou, on va se faire une petite pause musicale.
Des mois ont passé depuis les premières lignes de ce projet, mais j'ai toujours pas signé de gros chèque. Non, j'encaisse les droits de les crochets. Dans la musique, faut s'accrocher, mais je continuerai cette merde, même si je vois pas le succès s'approcher. Heureusement, mes gars me disent que ça promet. Dans mes textes, je m'inspire de mes problèmes. Je lâcherai rien, non, c'est promis, frérot. Je dois tenir mes promesses. J'ai des choses à me prouver. Trouver le bonheur, porter le trophée avec ma team. Arrêter les liquides qui se distillent dans les prouvettes. Ils se disent tous rappeurs après 2-3 textes grattés dans leur chambre. Mais ça ne tient pas qu'à ça. Malgré tout, c'est bien qu'ils tentent leur chance. Depuis l'époque du bac à sable, j'ai eu 2 fois le bras cassé. Sortais pour jouer Yamakasi. J'écoutais mes scuds, des cassettes, mais c'est les riches qui dirigent notre monde. Je le répète trop dans mes lyrics, mais j'ai tant de mal à garder pour moi toutes ces putains de choses qui méritent. Tu rentabilises, belle que je maîtrise. Technique, destruction, tarpirus. Je passe par Paris, je finis le projet, mais cesse gratter sur le papyrus. Est-ce qu'il fantôme dur comme Vandame? Je réalise le plus grand de tes fantasmes. Tu peux me trouver à 3h, agrafer mon place en vandale dans une ruelle sombre estoise. Noir et mélange dans la cristalline. Je sais que mes potes festoient, j'ai encore plus la dalle puis cette année. Mais bientôt 10 piges de rap, je commence à avoir mal aux pattes. En un freestyle, je te fais le portrait. Sanglant comme les 8 salopards, et je me retrouve seul dans resto japonais. Bah ouais, parfois je m'isole, je veux plus voir de larmes sur sa pommette. Je m'enferme, on dirait que je vis seul. Ouais, il est temps que j'arrête de fumer. Je me dis que c'est au-dessus de mes forces, mais c'est bien plus facile de se voiler la face que de faire des efforts. Mais plus j'attends, plus c'est pire. Des fois je veux plus du tout, c'est perdre. Quand j'écoute plus tous ces pitres, t'as capté le truc si tu sais perdre. Mais dans ma tête, ça part dans tous les sens comme Carrefour de Shibuya. Je regarde par ma fenêtre, la brume épaisse. Je crois que ma vision s'est brouillée. Là je titube, après quelques verres, gros, je suis perdu dans le brouillard. Lendemain de soirée, je vois mon pote cocard sous l'œil, je crois qu'il s'est pouillé. Car l'alcool ça rend violent, je l'ai revoir partir en miaulant. Quand j'aboie mes textes, j'essaye d'esquiver cette vie, tiens comme Yolande. Et n'éteignez pas volante, à 140 mains sur le volant. Besoin de voir autre chose, remplis la feuille, je passe un coup de langue sur le collant. Et je crois que je viens de finir le projet, c'est de sa faute si l'humain porte le poids du monde sur les épaules. Le cœur est froid sous la polaire, du mal à gérer ma colère. Du coup je pète des trucs, je crie tout seul dans ma caisse, je serre les molaires. Problème se règle pas avec une clé à molette, non. Ouais j'ai besoin de me barrer d'ici, genre Wesson ou Molène. L'ombre sur le cadran solaire pour ne plus lire toutes ces conneries sur vos lèvres. Je regarde le monde, comment ne pas être affolé. T'étonne pas si ce matin je garde fermé mes volets. Et que je parle à personne, les yeux baissés mais pas les bras. Et son fantôme ne me hante plus, ouais j'ai enfin changé les draps. Ces vieux souvenirs je les ai jetés. L'amour c'est beau, mais je me sens faible quand je dis je t'aime. Besoin de prendre l'air, je regarde la mer depuis la jetée. Je me dis putain que le monde est grand. Et au milieu de ça, moi je suis que dalle. Que de fantômes, que d'âmes errantes. Problème futile me rend que dingue. Des fois j'arrive à prendre du recul. Des fois ça me fait du bien quand j'ai mal. Des fois le danger m'a tiré. Des fois j'ai plus les mots, tant j'ai mal.
Et vous êtes toujours sur Radio U au 101.1 pour notre quotidienne aux enracinés. C'était Aya Kafi de Diké et justement, on est avec toi Diké, salut.
Salut, salut.
Bon, je te représente rapidement, mais du coup, t'es un rappeur brestois. En 2021, tu as sorti ton album Fantôme. Et depuis plus d'un an maintenant, on te retrouve sur des scènes quand même assez importantes en Bretagne, que ce soit à la Carène, on t'a vu à la fête du Brie de Landerneau. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, t'étais aussi au Hip Hop Session à Nantes en septembre.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, on va parler de tes dernières actualités, mais avant, on va peut-être s'attarder un petit peu sur ton lien avec les Enracinés, vu qu'on est aux Enracinés actuellement, ouais. Où tu as déjà joué et aussi présenté ton court-métrage Pluie. Comment t'as entendu parler de ce lieu et comment t'as commencé à t'y produire ?
Alors, comment j'ai entendu parler des Enracinés ? Ben en fait, je connaissais un petit peu du monde qui connaissait le monde qui tenait la boutique. Et en fait, depuis début janvier, je suis accompagné par Margoulin Productions, du coup, qui est des tourneurs brestois, et qui connaissent bien ce lieu-là. Et du coup, en fait, la connexion s'est faite et on m'a proposé ce format-là, peut-être de venir présenter du coup, le court-métrage Pluie qu'on a réalisé avec Marceau. Et dans la foulée, on a fait un concert. Du coup, c'était quand même deux événements différents, mais où, du coup, ça faisait une petite cohérence entre une projection du court-métrage. Et en plus, c'était, je crois, deux, trois semaines après, on a fait le concert ici. Et c'était très chouette.
Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce lieu ? Parce que c'est pas vraiment une salle de concert, c'est un bar, donc potentiellement il n'y a pas ton public ou des gens qui te connaissent. Est-ce que ça c'est justement un truc qui est un peu challengeant ou qui peut être assez sympa à faire pour un artiste ?
Ouais, carrément. Et puis je suis toujours attaché vachement aux scènes entre guillemets de bar, enfin de jouer dans les bars, en fait, jouer dans des ambiances où t'es proche du public, où il y a de la vie quand même autour. Et aussi, c'est ça qui est intéressant, de se confronter pas forcément à ton public aussi, et du coup d'aller jouer dans des lieux où tu sais que tu vas pas forcément voir ton public. Après, j'avais quand même réussi à ramener un peu de monde pour venir me voir, mais c'était super chouette. Et ouais, carrément, je suis quand même vachement l'envie de jouer dans des salles, sur des belles scènes, mais je prends toujours énormément de plaisir, et j'aurais même limite envie de dire, pas forcément plus de plaisir, mais presque. Parce qu'en fait, c'est une ambiance qui est différente, tu vois. Je repense au concert qu'on avait fait au Caf Kérine, du coup, avec Radio U. Et où, pareil, du coup, c'était dans un cadre, dans un petit endroit, avec...
Même,
voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce truc-là de proximité avec le public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on retrouve pas sur les grandes scènes, sur les gros plateaux. Et du coup, c'est un truc sur lequel j'aime beaucoup me retrouver, ouais.
Et du coup, pour parler un peu de ton actu, donc il y a moins d'un mois, tu as sorti un titre et un clip qui s'appelle Doku. Il y a un making-of qui a été réalisé par Finistère Amer, et dans ce making-of, tu dis que c'est le plus gros projet pour le moment dans ta carrière. Et en effet, tu t'es entouré d'une grosse équipe de production pour réaliser le clip. C'est un clip qui ressemble vraiment presque à un mini court-métrage. Il y a vraiment un gros travail au niveau des plans, des décors, du maquillage. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu portes autant d'importance à ta musique qu'à l'image qui l'accompagne ? Est-ce que, en fait, pour toi, c'est important de réaliser des clips qui sont de qualité
Alors ouais, carrément, je trouve ça super important et aussi je pense que c'est venu avec le temps. C'est en fait, j'ai aussi la chance d'être accompagné de Marceau Huguin, du coup le réalisateur de ce clip, qui, on n'en est pas à notre premier essai, du coup il y avait Ayakashi, il y a eu Pluie, il y a eu le court-métrage, et où du coup en fait ça fait un bout de temps que je travaille avec Marceau, et en fait je pense que c'est aussi lui qui m'a amené à ce truc-là d'apporter des visuels poussés, chiadés, où vraiment on essaye d'aller au plus loin, et puis aussi du fait que c'est Marceau qui réalise, du coup c'est aussi Marceau qui dans un premier temps écrit les scénarios, et ensuite après on vient en échanger, il me dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aimes pas, et puis à chaque fois après on étaye, on affûte un peu ce qu'on va faire, parce que parfois on a des ambitions un peu hautes et on se dit ça va peut-être être un peu compliqué de faire ça. Bon, après on a quand même réussi à faire des choses assez chouettes, tu vois, dans le clip de Pluie, l'accident de voiture par exemple, tu vois, c'est des trucs où on se disait mais comment on va faire, quoi. Parce qu'on voilà, on n'a pas des grosses boîtes de prod qui alignent des cachets pour faire les clips. Mais voilà, avec de l'énergie, avec de l'envie, et puis comme tu disais, avec une équipe, une grosse équipe derrière, ce genre de projet, là, le clip de Doku, jamais ça serait, il aurait vu le jour sans toute l'équipe qu'il y avait derrière.
Et tu parlais de Marceau, du coup, qui est à la réalisation, mais est-ce que, parce que le clip, quand même, pour le raconter un peu, il y a quand même vraiment une histoire qui se déroule. Enfin, on te suit d'abord en train de te faire courser par la police, tu finis à un moment sur un brancard à l'hôpital. Est-ce que les idées, elles émanaient quand même de toi, ou c'est vraiment Marceau qui a eu les idées? Comment ça se passe exactement?
Ben, en fait, là, pour ce clip-là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai fait écouter des morceaux que j'avais à Marceau. C'est souvent comme ça qu'on fait. Et puis après, lui aussi me dit « Tiens, c'est plus celui-là, je vois plus quelque chose sur ce morceau-là ou sur ce morceau-là. » Du coup, moi, je lui ai laissé un peu, entre guillemets, carte blanche. Je lui ai dit « Voilà, je te fais écouter, j'ai des maquettes, j'ai des trucs. Et après, à toi de me dire qu'est-ce qui t'inspire aussi. » Parce que voilà, c'est vraiment une relation de travail. Enfin, c'est très lié, quoi. C'est pas, je peux pas dire à Marceau « Tiens, il y a ce morceau-là, viens, on le clip, écris-moi un scénario, quoi. » Et où du coup, Marceau, il a, vu que c'est un réalisateur de ciné, il a beaucoup d'idées, il a plein de trucs. Et du coup, c'est quand même lui qui pose sur le papier une idée principale. Après, ça nous est déjà arrivé sur des clips où tac, je balance des petites idées. Mais c'est quand même principalement Marceau qui a le travail d'écriture des clips. Et ensuite, après, concrètement, on en discute et il me dit tac, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas. Et je dis ok, super. Tac, ce truc-là, c'est cool, mais je le verrai peut-être un peu plus comme ça. Et puis on affûte ensemble, tu vois, et pour que ça termine après au résultat final, quoi.
Et donc même pendant le tournage, t'as ton mot à dire si jamais t'as des envies que ça change par exemple, ouais.
Carrément, on est amis avant de travailler ensemble, quoi. Du coup, il y a aussi un truc vachement au feeling. Et où évidemment il y a des histoires d'argent dans ces clips-là, mais c'est pas. J'ai aussi la chance de bosser en fait avec une équipe qui est bénévole. Du coup, il y a de l'argent qui est investi dans ces clips-là, mais c'est de l'argent qui est investi pour le décor, pour la location du matériel, pour le défraiement des personnes, mais les personnes repartent pas avec un cachet. Marceau repart pas avec un cachet dans sa poche de réalisateur. Du coup, voilà, c'est vraiment un truc où, en fait, on construit ensemble quelque chose, un clip, une vidéo, et en fait, on est amené à en refaire à chaque fois, parce qu'à chaque fois, l'expérience d'avant, ça a été une réussite, et que Marceau, il est sacrément ambitieux aussi, et que moi, je suis friand aussi de cette ambition-là. Et puis voilà, à chaque fois qu'on réalise un clip ensemble, on essaye de pousser la barre un peu plus haute. Et puis pour deux coups, on espère avoir réussi à avoir encore plus rehaussé la barre. Mais c'est un peu à double tranchant, parce que du coup, maintenant, on va être obligé de faire encore mieux pour le prochain. Et ça va être coton, je pense.
Et tu le disais, c'est pas le premier clip que tu sors. Il y a déjà eu alors Ayakashi, Pluie ou encore Fantôme. Et globalement, après c'est un peu un avis personnel, mais on sent que t'es dans des atmosphères qui se veulent assez sombres au niveau des couleurs. Il y a toujours aussi, par exemple, la mer qui revient pratiquement dans chaque clip. Est-ce que tu saurais dire pourquoi ?
Bah, je pense que ma musique est quand même un peu globalement sombre, quand même assez sombre. Du coup, c'est vrai qu'avec des clips qui seraient beaucoup plus colorés, peut-être que ça matcherait un peu moins. Je pense que c'est aussi des teintes que moi j'aime bien, que j'apprécie aussi. Et par rapport à la mer, ça c'est un long débat. Je suis brestois, j'aime beaucoup la mer. Et en fait, il y a Naïmi, moi, du coup, mon fidèle acolyte de rap, qui me tacle par rapport à ça. Et il me dit, putain, à chaque fois dans tous tes clips, il y a de la mer, t'es relou, quoi, arrête de mettre la mer, quoi. Et du coup, là, dans Doku, si je me trompe pas, il n'y a pas la mer.
Non, je crois pas, ouais.
Du coup, challenge accepté.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu la réalisation d'un making-of pour ce clip, et tu avais aussi réalisé un court-métrage qui porte sur la création du morceau Pluie. Pourquoi ça t'intéresse de montrer les coulisses de la création
Alors, pour le cadre du making-of du clip de Doku, c'est aussi parce que j'étais accompagné de l'équipe de Finistère Amer qui sont venus filer un gros coup de main sur le clip, encore merci à eux, et qu'ils aiment bien ça, ce travail-là aussi de making-of. Et que moi j'aime beaucoup, moi j'aime bien regarder les making-of des clips, et d'autant plus sur un clip de cette envergure où on avait 5 jours de tournage, où c'était quelque chose de très conséquent, où enfin, on était super contents, tu vois, de tous les décors qu'on a réussi à avoir, tout ça, et du coup c'était aussi un moyen de valoriser ça.
Et vous avez été au Capucin et à l'hôpital aussi, non?
On a fait Capucin, ouais. Hôpital, la Carène, cimetière de Saint-Martin, enfin on a fait plein de choses, et on avait un chargé de prod qui s'était occupé d'avoir toutes les autorisations de tous les décors de tournage, heureusement. Mais ouais, et par rapport à, pour en venir au court métrage, où du coup là c'était plus une envie de Marceau, en fait. Marceau, on se connaissait depuis longtemps, et puis il m'avait déjà dit qu'il avait l'envie de faire un documentaire sur la création d'un morceau de rap, mais vraiment focus sur un seul morceau de A à Z. Et au tout début, quand il m'en avait parlé, on l'avait pas fait parce que je pense qu'on était trop jeunes. Enfin, c'était pas le temps de le faire. Et puis à un moment, en fait, on s'est dit allez, let's go, et on est parti là-dessus. Et c'est vrai que même moi je trouve ça intéressant, moi j'aime bien ce genre de format, je suis assez friand de ce genre de choses. Après, l'exercice c'était aussi de faire attention à pas refaire les mêmes choses qui ont été faites, de pas éviter d'être prétentieux dans notre propos, dans le propos du documentaire aussi. C'était vraiment la démarche de montrer comment nous on fait de la musique. C'est pas comme ça qu'il faut faire de la musique, mais c'est comme ça que nous on fait de la musique, et du coup ça permet à d'autres personnes de regarder ça et peut-être de prendre quelques trucs qu'ils ont vus, et peut-être ça va les aider. Je sais que moi ça m'est arrivé, des choses m'aident, tu vois, quand je regardais des making-of, des docus, des trucs, des machins, ça m'inspirait, ça me motivait. Et c'est des retours aussi que j'ai eu de personnes dans le public quand ils sont venus voir ce documentaire-là. Et du coup, là j'étais là, encore une fois, challenge réussi, et du coup c'est ça, d'avoir réussi à transmettre cette motivation-là et cette envie, et c'était aussi un des objectifs du docu, quoi.
C'est ce que j'avais demandé, t'as senti que ça a intéressé les gens, ce documentaire?
Carrément à fond. Après, on a, loin d'avoir rempli les salles, après on n'a pas fait des masses de projections, on a dû en faire 4-5. On avait fait l'avant-première du court-métrage du docu au cinéma Les Studios, où là pour le coup c'était une projection qui avait vraiment bien marché, parce que c'était l'avant-première, c'était à Brest, du coup on avait fait pas mal de com là-dessus, du coup on avait quand même bien rempli la salle. Mais après sur les autres projections, c'était des petits comités quand même, mais du coup il y avait quand même cette proximité avec le public, et carrément j'ai eu des retours, c'est ça, de personnes qui me disent bah, tu ressors de là, t'as envie de faire, t'es motivé, t'es truc, et ça fait trop plaisir.
Donc on a parlé de ton clip, et c'est quoi là les prochaines actus à venir pour toi dans les semaines ou dans les mois à venir?
Alors les prochaines actus, il y en a plusieurs. Bah déjà en fait normalement ce clip était normalement le premier extrait d'une mixtape, mais qui normalement la mixtape aurait dû sortir dans la foulée du clip. Mais comme j'aime bien le répéter, c'est l'histoire des rappeurs, de repousser les sorties de leurs projets. Du coup, je n'ai pas dérogé à la règle, et le projet n'est pas encore sorti. Mais du coup, voilà, je vais... Parce qu'en fait, il n'est pas terminé, en fait, tout simplement. Du coup, là, je vais m'y re-atteler. Et puis, on espère que ça sortira pour la rentrée. Voilà, en ce qui concerne le projet. Et puis sinon, il y a toujours les dates. Voilà, les concerts, c'est quelque chose que je fais... aussi beaucoup. Il y en a un peu moins que l'année dernière, mais il y en a toujours quelques-unes. Là, par exemple, la prochaine, ça se passe... Bah, il y en a une samedi, Place Kéruskin. Ça va être concert un peu sauvage, ça va être marrant, c'est pour le concours de pétanque annuel de la Place Kéruskin. Et étant donné que j'ai traîné ma patte à Kéruskin, je viens lâcher quelques 16 pour clôturer le tournoi. Et sinon, ça sera à Bellevue, le 7 juillet, dans le cadre du festival Fenêtre Ouverte. Du coup ça sera au niveau de la dalle de Kerguat à Bellevue, et voilà. Et sinon le grand rendez-vous qu'on va préparer, c'est surtout Panorama, du coup en septembre. Voilà, on a été sélectionné au Panorama Contest l'année dernière, et du coup on se produira à Panorama cette année, qui aura lieu en septembre. Et du coup on sera en résidence fin août au Sioux à Morlaix pour préparer le show, pour préparer le set, et pour essayer de présenter un truc un truc carré à panorama.
Bah, trop bien, merci beaucoup Dike, merci d'être venu.
Avec grand plaisir, merci.
Et puis avant d'accueillir Flavie pour son agenda, on s'écoute ton dernier son du coup, Doku.
Allez, faisons ça. Ouais.
Que mon flow éclate, je vais chercher flash à la peau des gars. Je me mets pas dans la peau des gars qui vivent proliqués ce soir. La liqueur dans ma tête va faire de gros dégâts. En attendant le jour de la finale, on donne tout pour l'écart. Tu dis que je suis prétentieux, j'ai juste tiré les cartes. Et on dit que j'ai une gueule d'ange, c'est bizarre car j'ai pas encore viré les quatre démons qui traînent dans ma tête. J'ai jamais eu le quotidien des gars qui piquent dans la tête. Mais tu peux me trouver, piaf dans la taille, le cul sur un banc, le cœur sous la neige, peu importe le jour de l'année. Je pense à tous mes proches qui au vie sont cédés. Et un jour je dirai fils ton sache. Le monde est beau malheureusement pour le sauver ses têtes. L'avenir plus comme quand un keuf te dit vite ton sac. Si tu vois arriver t'es qu'une vite ton sabre. Car le poison est perfide comme viper. Avec lui ça va hyper vite comme zipette. Tu me perds vite comme hyper. L'addition c'est toi qui paie. Tu dis que c'est pas grave, moi présume 26 caras. Putain hier j'ai fini garaf gara. Ceux qui fument le gara dans les sommes au vent de garaga. Un flow est incomparable donc je ne peux pas me faire devancer par eux. Fonce dans le mur qu'est 9-3-K art. Tu dis que c'est pas ton K.A. Mais le soir tu fais des K.A. Le poison vicieux comme K.A. Arsan. Non t'es pas K.A. Faut porter le fait que le K.A. Pour venir à nos concerts faut qu'il demande à ses parents. Hey, je m'attends même pas sur ses paroles. Mais nous dans nos pogos c'est pas rare que ce compte le nombre de bagarres c'est pareil. Oh, que tu sois là ou pas bah c'est pareil. Mélange cigarette en sous-parolier du jour ou sous-barrette. Ou sous Sharingan, après deux bouteilles, je pars japonais au Lingala. Hey, respect à ces gars-là qui continuent de s'entraîner tout en sachant pertinemment que le niveau n'est pas égalable. Dame, ouah, c'est là, elle fait mal. Ouais, frérot, c'est du rap, pas là pour écrire des balles. Dans mon rétro, ils sont pas là. J'ai le cheval sur le torse, comme un polo sport ou comme sur maillot des joueurs de Dallas. J'ai la dalle à danse, bif, mais le bif, s'il est pas là, tant pis. J'ai la jura dans le but, la balle, bientôt logique dans le but. Toi, toi, tu rates même pas dans le but. J'poule up dans la mer, qu'au noir, j'fais le tour de la city. Y'a Stis qui m'a envoyé son titre. Cut. Sur son katana, le sang de ses victimes. C'est plus des punchlines, c'est des maximes. Avant fantôme, check sparring maxi. Super de la car, comme son petit frère sur la main, y'a gravé 4 signes. Et fantôme deviendra classique. Dans le cœur, dans les oreilles de tous ceux qui comprennent. Pourquoi après 10 ans, je continue encore. À lâcher mes tripes, à gratter sur des kilomètres. Des schémas de rimes géométriques.
C'était Doku de Dike et Flavie est avec nous. Coucou Flavie.
Coucou Lou.
Alors quoi de beau ce week-end ?
Eh bah, je te dis ça tout de suite.
Et salut les psyus, j'espère que vous êtes en forme. Je suis de retour pour vous divulguer les idées sorties de ce week-end qui, comme d'habitude, ne manquent pas. On commence avec vendredi soir, il y a Michel Polnareff qui passe à Brest Arena. Et sinon, pour ceux qui tiennent à leurs oreilles, vous pouvez plutôt opter pour la Carène. Vous y retrouverez l'event Consortium qui met en valeur la scène rap émergente brestoise. Vous aurez droit à trois esthétiques différentes avec Kaski, David Pistol et Lola Lang et d'autres guests en bonus. Rendez-vous à 20h30 à la Carène. Et si vous voulez pas y aller le ventre vide et vous échauffer la voix avant, vous pouvez faire un petit tour au centre social de Kerango à 18h30 pour un barbecue karaoké. Eh ouais. Et on passe à samedi, à partir de 10h au BH Café, vous retrouverez une friperie vintage proposée par La Fripée, chez qui, je cite, « chaque tenue s'inspire d'un film ». Critique de cinéma dans une autre vie, Ambre vous partage son amour pour le vintage et vous incite à assumer votre style grâce à une sélection de pépites vintage des années 50 à 80. Samedi après-midi, la brasserie Poème vous propose sa kermesse au programme, nombreux stands de jeux, food truck, grillades et DJ sets. Rendez-vous pour cela à partir de 15h. Autre idée pour samedi, à 18h vous retrouverez le vernissage d'une expo intitulée « Traînée » par le photographe brestois Matt L. Et de 19h30 à 22h, il y aura un concert de soutien avec Moby's Dick Funk Mob et DJ Platine. Et là normalement vous vous demandez, mais soutien à qui ? Eh bien à l'asso qui organise la soirée, c'est au feu à droite situé depuis peu au 41 rue de la Porte. Avis au petit petit U à 17h, on se bouge place Guérin car Astropolis y installe son Astroboom jusqu'à 18h pour un moment pétillant de fêtes, de paillettes et de musique pour les moins de 12 ans. Dance floor pour les enfants avec GVL, des jeux, avec l'assaut des épions et coiffure maquillage. Et oui, les jingles ne mentent pas, Radio U c'est aussi la radio des enfants. Et une fois les petits couchés, on arrive à samedi soir, vous retrouverez Club Safari Ambiance au Vauban. À partir de minuit, mood, vacances, soleil, tout ça, proposé par Tao King. Prévoyez 12€ pour l'entrée sur place, car pas de prévente pour cette soirée. Et pour les amateurs d'électro, vous savez où aller, mais je vous le dis quand même, il y en aura à la suite, au Cubarsor, comme d'hab, jusqu'au bout de la nuit. Et c'est tout pour moi les petits, je vous dis à jeudi prochain, même heure, même station, pour un nouvel agenda.
Merci beaucoup Flavie, et c'est déjà la fin de notre émission. On se revoit lundi et sur ce, on vous souhaite un bon week-end et une belle soirée sur les ondes de Radio U.